Bienvenue à la French Connection épisode 86. Pour ceux qui remarquent, nous avons enregistré dans le désordre cette fois-ci, puisque nous devions enregistrer l'épisode 87 avant l'épisode 87, et les événements ont fait que ça a été autrement. Cette semaine, dans cet épisode, je suis avec Patrick.
Salut Nick.
Salut. Et nous allons faire un épisode spécial sur une nouvelle qui est sortie au Québec sur le fait que le Journal de Québec a fait une enquête et a découvert que dans les appels d'offres gouvernementaux, les firmes de consultants ont une tendance à utiliser ou à maquiller les CV qui sont déposés. Et ça a créé un certain bruit dans le marché.
Ouais, exact. Puis quand tu dis qu'ils ont découvert, ce qui est drôle de ça, c'est que les beaucoup de commentaires qu'on a reçus sur les réseaux sociaux et bouche-oreille, et le fait que c'est pas vraiment une nouvelle dans le domaine. Plusieurs personnes connaissent cette tendance-là, cette méthode de gagner des contrats-là, mais qui, faut le dire, est quand même une fraude. Et techniquement, est supposé que si une entreprise se fait prendre à ce jeu-là, devrait avoir une punition, mais une amende ou un quelque chose, se faire bannir du gouvernement ou autre. Mais présentement, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, ce qui a été en fait découvert dans les dans la recherche du journaliste est que certains, plusieurs personnes ont commenté avec le journaliste disant qu'ils se sont fait demander par plusieurs entreprises, employeurs, anciens employeurs, à faire changer leur CV et même certains changeaient les CV et les soumettaient dans des appels d'offres sans faire mention justement de ça à l'employé en question. Personnellement, moi, ça m'était arrivé presque 10 ans, dans le coin de 2010-2012. Un de mes premiers employeurs qui m'avait demandé, viens voir, je vais te montrer ton CV, je l'ai embelli juste un peu. Juste que tu approuves si c'est correct, faut se mettre sur tel appel d'offres, blablabla. Fait que moi, habituellement, il n'y a pas de trouble. Tu sais, c'est plus une question d'ajuster ton CV dans le sens de l'organisation. Tu sais, que les mots fit, que si c'est pour un client dans du Java, ben tu orientes ça vers Java. Peu importe, tu sais, dans la bonne technologie que tu connais, mais que l'orientation soit là. Mais non, au final, il avait rajouté 10 à 15 ans d'expérience dans mon CV, dans d'autres pays, pour pas que ça soit vérifiable. Et j'étais finalement au primaire avec de l'expérience en InfoSec. Donc, en bas de 15 ans, c'est comme si j'avais travaillé. J'étais déjà sur le marché du travail. Donc, il rajoutait une dizaine d'années à mon âge. J'ai totalement refusé ça. Parce qu'imagine, dans un, t'acceptes ça, tu passes très mal. Si quelqu'un découvre ça, ta notoriété, ton nom, t'es détruit. Puis en plus, je veux dire, si j'ai 20 ans puis j'arrive dans un ministère, c'est marqué j'ai 25 ans d'expérience, c'est un peu bizarre aussi, là. Ça fonctionne pas vraiment.
Ouais, effectivement, c'est survendre puis sous-livrer dans ce cas-ci parce que justement, c'est de prendre comme le client est imbécile de se rendre compte que tu as justement une personne d'une vingtaine d'années qui arrive avec 25 ans d'expérience. Il y a un non-fit là, d'assez, tout à fait évident. Et ça, j'ai vu d'autres cas aussi. Faut gérer l'attente du client puis faut pas le tromper dans ce genre de choses-là. Pour prendre, tu as parlé de ton expérience, puis moi, je suis un consultant depuis un certain nombre d'années aussi. Et je suis à mon compte aussi. Fait que moi, mon brand, c'est moi, mon nom, ça a une valeur énorme. Fait que ce genre de situation-là, je me placerai jamais dans une situation de cette nature-là. Et je te dirais que au début de ma carrière, j'ai trouvé ça très difficile puisque au début de ta carrière, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Et effectivement, tu as une pression très forte à t'amener à tricher, disons, les règles. Pour t'aider à rentrer sur des contrats, toutes les choses. Dans mon cas, puis là, je cite mon père, vaut mieux être intègre et pauvre que mentir et être dépendant ensuite d'être contraint à ça. Donc, mon début de carrière était beaucoup plus difficile que probablement beaucoup d'autres gens parce que j'ai toujours refusé d'adhérer à ce genre de choses. J'ai toujours préféré être libre, toujours préféré être honnête. Et en ce sens-là, j'ai été pénalisé au début de ma carrière, mais et pour ceux qui nous écoutent, ça paye plus tard parce que quand tu te fais pincer, c'est moins le fun.
Oui, exact. Puis tu sais, quand tu dis que c'est plus dur au début, effectivement, parce que malheureusement, c'est une tendance qui est répandue dans la plupart des compagnies de consultation, qu'ils soient des petites entreprises ou des grosses compagnies. Puis quand tu te bats pour ça, parce que moi aussi, c'était au début quand je commençais, t'as la pression, mais tu te fais refuser des contrats quand tu le fais pas parce que t'as pas joué le jeu de mentir, ce qui est un peu terrible là, au final. Et je pense que ce qu'il faut retenir surtout de tout ça, c'est qu'il faut que les choses changent puis qu'on s'en aille dans une direction que, je veux dire, peu importe, il y avait des explications dans l'article disant que les requis pour certains contrats sont trop élevés, donc c'est pour ça qu'on triche et blablabla. Bla, bla. Je veux dire, si personne dans le marché a les requis et tout le monde, personne ne triche, le tout va se balancer et ils vont ajuster les choses. Donc, évidemment qu'à long terme, si on s'en va dans une bonne direction, ça va aller mieux. L'autre chose aussi qui est un des gros impacts pour les jeunes, c'est que quand tu commences dans ce domaine-là puis que ton CV est modifié sans même que tu le saches, parce que certaines entreprises, c'est ça qu'ils font, l'impact peut être énorme si tu te fais prendre, même si tu n'étais pas au courant. Hein. Puis ce qui est dommage, c'est que certains jeunes se font faire ce genre de choses-là et au final, ils savent même pas qu'ils participent à une genre de fraude ou à ces choses-là. Et éventuellement, ils vont peut-être se faire refuser des emplois. Ils sont peut-être, on sait pas, mais ils sont pas dans une bonne position. Puis ce n'est même pas de leur faute. Donc,
c'est assez triste, par exemple, quand que ces gens-là se font utiliser contre, dans le fond, contre leur gré. Puis ça revient comme
ou se faire forcer, là, ouais.
Ouais, aussi, mais on peut comparer ça aux mules, par exemple, qui transportent de l'argent ou des
ouais,
des matières illégales, c'est un peu ce genre de contexte-là. Ce qui fait que ces gens-là sont un peu contraints. Puis je reviens sur le fait que je suis un travailleur autonome, ce qui fait que à ce moment-là, mon brand, c'est mon nom. Fait que si moindrement, si je m'étais fait pincer dans mes jeunes années à avoir triché, cela m'aurait suivi jusqu'à maintenant. Et comme le marché est suffisamment petit, ça se sait, ce genre de choses-là. Puis, à un moment donné, ça aurait limité ma capacité à pouvoir soumissionner. Ça aurait limité ma capacité à avoir du travail. C'est quand même grave.
Oui, exact. Puis, quand tu dis le marché est petit, on ne parle pas de la ville de Québec. Là. On parle de Québec jusqu'à Montréal, jusqu'à Ottawa, jusqu'à Toronto, jusqu'en Europe. Là. Tu sais, ça peut aller loin. Le marché est vraiment petit. Puis, les mots vont vite. Donc, l'impact peut être vraiment, vraiment grand. Et c'est vraiment dommage. Donc, l'autre point qu'on peut parler, c'est aussi le concept de le résultat au fait de ce que ça apporte à l'entreprise. Les ministères qui acceptent ça, quand certains le savent et font avec, c'est tout au niveau de la compétence puis de la qualité de ce qui est soumis et reçu en termes de service. Quand on dit que je me suis fait proposer avec, je pense, 2 ans d'expérience, qu'on voulait mettre 15 ans d'expérience sur un CV, ben le client s'attend à 15 ans, s'attend à un niveau de qualité supérieur, ou pas juste peut-être qualité, mais un niveau de connaissance aussi qui est totalement différent. Et on va se rendre au point que la personne va être acceptée, elle va être mise au poste et finalement, elle fera pas du tout la job ou pas ce qui était supposé d'être demandé. Mais il se passera rien, la personne va rester là, puis ce qui va être livré va être plutôt mauvais. Mais en même temps, t'as ce côté-là qui donne très mauvaise qualité, puis t'as de l'autre côté que t'as tout le concept de prête-nom et de... C'est comme un... Je sais pas, c'est frauduleux en même temps, mais je pense qu'il joue énormément avec les règles dans les contrats. Mais il y a tellement de contrats qui vont aller se gagner en disant « voici les ressources que je soumets ». Puis ces ressources-là sont tous en train de travailler dans un autre contrat. Et lorsque le contrat est gagné, bien évidemment, ce sont d'autres personnes qui vont prendre leur place.
Ouais, ça, cet aspect-là, ça, c'est des flou. Choses, c'est flou, mais ça n'existe plus maintenant, en tout cas, à ma connaissance.
Exact.
Puisque maintenant, le gouvernement s'est fait assez floué avec ça, qui ont mis des clauses spécifiques dans les contrats où ils déclarent des ressources clés ou des ressources principales qui ne peuvent pas être modifiées. Fait qu'ils ont comme gelé ces ressources-là justement pour éviter ce genre de problème-là. C'est une façon d'arriver à ça. Là. Puis d'ailleurs, les pénalités financières qui sont associées avec sont assez substantielles. Là. Fait qu'ils ne peuvent plus modifier une ressource clé comme ils veulent, comme ils faisaient avant. Puis il y a toute une notion d'approbation, puis toute une mécanique, parce que tu sais, dans la vraie vie, des fois, il y a des impondérables, mais ça s'est amélioré parce qu'ils l'ont vu de façon contractuelle.
Ouais, exact. La seule endroit qui reste que ça fonctionne encore, c'est principalement au niveau des contrats qui sont à distance ou plus techniques, qu'on va parler de tests d'intrusion et autres, parce que par défaut, quand tu vas faire des tests, tu sais, t'es à distance, t'as pas besoin de te présenter, donc, puis officiellement, ça serait niaiseux de se présenter dans les bureaux pour faire un test qui requiert d'être pas dans les bureaux. Et c'est là qu'il va se faire les modifications de CV, qui vont soumettre des seniors, mais qui vont mettre 10 juniors en dessous, ou un junior, ou peu importe. Puis là, on retombe avec le concept que le junior, c'est peut-être un CV qui était même pas au courant, qui était soumis, qui était pas le sien. C'est un beau servicieux comme ça. Puis, ben, en faisant ça, ben, on se ramasse encore une fois avec une mauvaise qualité parce que l'entreprise a payé pour des seniors, puis c'est des juniors qui font leur test d'intrusion. Puis si vous allez lire les articles, vous allez voir les exemples, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis, c'est ultra malheureux parce que ça détruit le marché. Puis, pas juste le marché du Québec, mais le marché en tant que tel des tests d'intrusion. Tu sais, tu as beaucoup d'entreprises qui pensent qu'un test d'intrusion, c'est un scan de vulnérabilité. Je donne des formations, puis quand j'explique c'est quoi la différence entre un scan, un test d'intrusion, puis un red team, 90% du monde qui rédige les appels d'offres comprennent pas que se sont fait flouer. J'ai vu des red teams se faire vendre, puis finalement, c'est un pen test super standard. J'ai vu des pen tests se faire vendre, finalement, c'est un click Nessus. On a tout ce concept-là, puis au final, ben c'est ça. C'est des mauvaises soumissions, des CV qui font pas de sens et autres. Et qui fait qu'on est dans un beau servicieux, on perd de la qualité puis on perd de l'argent énormément avec ça. Là. C'est ça qui est triste au final. Donc, dans les recommandations, ben, c'est sûr que dans une des manières de faire qui est discutée dans l'article, ben, c'est d'avoir une banque de CV unique et sécuritaire, si possible. Et que cette banque-là, ben, ça soit l'endroit officiel que tous les CV peuvent être mis à jour. Fait que tu peux pas soumettre au ministère A puis resoumettre au ministère B avec deux CV totalement différents. Puis s'il y a une mise à jour, ben logiquement, ben tu as un concept de version puis tu as la différence entre la version 1 puis 2. Quelque chose de standard, de simple, que ce soit un Git ou un blockchain si vous voulez aller jusque-là, mais c'est des solutions qui pourraient être faites, qui pourraient être très, très utile pour toutes les entreprises, mais autant pour les consultants comme toi, je pense, Nick.
Oui, effectivement. Ben, pour les consultants autonomes comme moi, qui sont des solo-travailleurs ou des TPE, pour prendre un terme français dans lequel j'ai été largement exposé la semaine dernière, c'est une idée avec laquelle j'avais jonglé il y a plusieurs années sur le fait que tant qu'à avoir à qualifier sur chaque appel d'offre, toute cette stratégie-là, qui est potentiellement très lourde, qui est très coûteuse, autant pour les compagnies que...
Vraiment, dans les deux bords, tu sais, j'ai travaillé dans une compagnie de consultation que les personnes qui rédigent les appels d'offres étaient plus qu'une dizaine. C'est lourd, là. C'est intense.
Ben, c'est dispensé pour tout le monde. C'est dispensé pour les ceux qui répondent et c'est dispensé pour le gouvernement aussi. Ouais. Il doit faire des comités de sélection. Tout ce processus-là est très lourd. Puis, il ne faut pas se le cacher. Puis, malgré les efforts que tant les libéraux la CAQ a fait aussi. La consultation dans l'informatique au gouvernement du Québec est là pour rester. C'était pas la bonne façon. On peut débattre très longtemps de choses. Puis je trouve que personnellement, je trouve que les fonctionnaires sont dévalorisés, ils ont pas assez de compétences. Puis beaucoup d'intérêt à ce que le gouvernement mette beaucoup d'emphase pour les aider à cheminer. Puis c'est parce que ce sont quand même eux qui sont porteurs de la connaissance. Et à la limite, les consultants devrait être moins utilisé pour faire de la job, je dirais, de bras, mais pas parce que c'est juste toucher un système, mais la job de bras dans le sens où ils font le travail, puis les fonctionnaires ne font que le recevoir.
Ils sont avec les connaissances, finalement, ouais.
Ils sont avec les connaissances aussi, en plus. Fait on jump d'un client à l'autre, puis ça. Fait que ça, c'est pas une façon utile. Ça aide pas personne, ça aide pas le gouvernement, ça, tu sais, c'est complètement ça. Fait qu'il devrait avoir une structure pour aider, il devrait valoriser les gens, surtout, ben, en tout cas, surtout. C'est mon c'est notre domaine, mais surtout en TI, ils devraient valoriser leur job. Puis pour puis anecdote, parce que j'ai fait beaucoup de mandats de GIA dans lesquels on inventariait justement les internes externes dans des choses. Et le seul département où il y a un nombre extraordinaire d'externes, c'est en TI. Donc, c'est un univers dans lequel qui est très propice à ça. Il y a du bon. T'sais, j'en suis un consultant, fait qu'il y a du bon à ce que je fais. Mais en même temps, il y a peut-être une exagération d'utilisation de ça, mais ça, c'est un élément de régie interne au gouvernement qui devront régler et pas juste lancer des appels politiques et devoir vraiment régler les problèmes.
Oui, il faut que ça tombe sur le terrain. Il ne faut pas juste en parler. Là.
Ouais. Fait que c'est ça, il faut qu'ils règlent les problèmes structurels. Mais une fois que ces problèmes structurels-là vont être réglés, ils vont moins embaucher des externes pour faire du travail d'un interne, ce qui se passe à l'heure actuelle d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas assez de monde sur le marché, parce qu'il n'y a pas assez de gens au gouvernement qui sont intéressés. Les raisons sont multiples, sont complexes. Je ne suis pas de ceux qui vont conclure rapidement. C'est la faute de... C'est très complexe, mais à l'heure actuelle, on a une situation comme ça. Pour rectifier cette situation, ça va prendre beaucoup d'années. Je souhaite que la CAQ soit un acteur important là-dedans dans cette transformation-là, de ramener de la compétence au gouvernement. Mais ça n'empêche pas que les externes, comme moi, qui ont de l'expérience, vont avoir un appui, un élément intéressant à amener à contribuer. Et de là, il faut qu'il y ait une meilleure utilisation de ces ressources-là pour des besoins ponctuels, par exemple. On regarde l'article.
Ben exact, parce que tu sais, quand on parle des grosses firmes de consultation aux États-Unis, puis on en a déjà parlé de ça ensemble, c'est des firmes qui rentrent, ils font des in and out, que ce soit quelques semaines, quelques mois ou un an, mais c'est pour un projet, puis ils s'en vont après. C'est pas des ressources fixes qui restent là pendant des mois, des années, etc., qui ont les connaissances au final.
C'est effectivement plus un problème. Fait que c'est des besoins ponctuels, soit ou des besoins définis. Puis sur le Grand Québec, il y en a eu, par exemple, des besoins définis. Donc, on a un système à développer. Et ce système-là va exiger, disons, 50 personnes de plus pendant une période définie pour livrer un besoin défini. Donc, ça, c'est correct. Mais quand on arrive pour remplacer des employés internes par des consultants, moi, je suis très mal à l'aise avec ce genre de choses-là. C'est mes impôts aussi, là, tu sais. En même temps, j'en bénéficie pour d'autres raisons, mais je me qualifie plus comme les consultants qu'on retrouve aux États-Unis, dans le sens où ma connaissance est d'une certaine acabit qui fait que je peux faire ça. Je fais pas juste, donc j'administre pas les équipements ou les autres dans des environnements comme certains consultants, en fait, pendant des années, ils administraient des firewalls dans des ministères organismes, puis pas de façon genre gérée comme on peut voir maintenant, mais ils font vraiment comme un employé interne ferait l'équipement. Là. Fait que, mais ultimement, ils sont mieux de envoyer la gestion à l'extérieur au complet, puis envoyer ça sous-traité, là, envoyer ça dans le nuage.
Oui, exact. Puis tu sais, au final, quand tu regardes la majorité des entreprises privées, combien d'entreprises privées que la majorité des employés, c'est des externes? Ça approche le zéro, là. Fait que, tu sais, si les entreprises privées qui fonctionnent bien puis qui font beaucoup d'argent, ils approchent le zéro en termes de sous-consultants, je pense que le modèle n'est peut-être pas parfait présentement.
Ouais, puis dans l'entreprise privée, les consultants sont là, justement, comme tu mentionnais, en appui. Ils arrivent.
Exact.
Pour un besoin ponctuel, ils viennent aider l'organisation, puis, tu sais, ça a des mandats de 3-6 mois, justement, pour aider l'organisation à basculer vers quelque chose de nouveau, de mettre en place, de faire un projet. Et comme je mentionnais, même au gouvernement, il devrait être comme des projets circonscrits dans des temps définis, des éléments comme ça. Et quelques exceptions, là. Tu sais, moi, je me trouve dans une forme d'exception parce que je suis comme, je fais du conseil stratégique, fait que je suis dans une autre zone qui demande d'autres affaires, mais pour des besoins ponctuels, oui. Mais en tout cas, pour revenir à l'article, oui, c'est sûr que pour un travailleur autonome, ou en tout cas un travailleur indépendant, là, je sais pas. Là, je ne veux pas me mélanger parce qu'il y a des termes légaux là-dedans, là, mais en tout cas, j'ai ma compagnie dans laquelle je suis le seul employé, puisse faire ce genre-là. Un registre serait avantageux parce que ça viendrait simplifier les choses.
Oui, énormément. Puis c'est surtout le fait de ne pas refaire le traitement du CV, d'analyser si tu es valide ou non à chaque fois. Si t'es valide une fois puis t'es dedans le système, mais c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de temps de sauver.
Oui, mais de ça, puis je pense que c'est un peu ce que, parce que c'est quand même Pierre-Guy, puis je pense Marek, lui, Michel Poulin qui ont soulevé le point. Ouais. Ce qui est fort intéressant, c'est parce que en même temps, flouer un CV deviendrait difficile parce que
extrêmement difficile.
Une fois que t'es enregistré, tu peux pas commencer à modifier ton CV au gré des vents. Tu peux pas rajouter des années, en retirer, faire apparaître des choses qui existent.
Parce que techniquement, tu peux l'updater une ou deux fois par année comme tout le monde, mais pas un concept de dire « Ah bon, pour ce mandat-là, je suis expert en pentest, pour celle-là, je suis architecte, pour celle-là, je suis ça. » Ça ferait plus de sens. Hein.
Ben, c'est ça, les profils seraient uniformes puis seraient contrôlés, fait que ça serait déjà ça. Mais on le voit déjà dans les appels d'offres, il y a beaucoup de contraintes maintenant d'obligation de prouver. Et ça aussi, ça a changé. Je trouve que l'article est peut-être pas assez fort là-dessus sur les nouvelles façons de faire.
Ouais.
Maintenant, quand que je dis que j'ai un diplôme, je dois envoyer une copie du diplôme parce que si je n'envoie pas la copie, ma candidature est considérée invalide. Fait que si, tu sais, je peux pas prétendre avoir un master en quelque chose, si je peux quand même produire le diplôme ou si je peux avoir une certification en X, Y, Z, si je peux fournir ça. Fait que maintenant, ils font des vérifications. Ils se sont fait avoir...
Ouais, c'est peut-être pas appliqué partout non plus, c'est ça l'affaire, mais c'est sûr que ça s'améliore. Ouais.
Je sais pas dans quelle mesure, mais tu sais, maintenant, je soumissionne avec... Tu sais, j'ai l'avantage de l'expérience, fait que je m'en balance un peu plus maintenant. Là, je m'en balance. Mais tu sais, je fournis mes diplômes, je fournis mes affaires, je ne vais pas inventer un faux diplôme, je n'invente pas de fausses expériences parce que maintenant, dans certains cas, ils vont vérifier. Surtout à l'intérieur du gouvernement. Fait que si tu dis que tu es dans un autre ministère de faire telle affaire, ben, ça se peut qu'ils appellent le 10 ministères. Mm-hmm. En tout cas, du moins en sécurité, c'est très comme ça. Fait que je sais pas les autres domaines. Puis tu sais, l'article il brosse un tableau très large qui dépasse la sécurité. Pour l'univers que moi je connais, il y a très peu de place en 2019 pour ce type de fraude-là. Mais ça c'est à force d'avancer dans la méthode d'approvisionnement des contrats. Fait que maintenant les clauses. Tous les contrats maintenant viennent avec clause de pénalité assez sévère sur la non-présence d'une ressource clé. Ils deviennent, tu sais, s'il y a un problème, il y a des clauses de vérification, ils vérifient des diplômes, ils vérifient des expériences. Puis les comités de vérification, les comités de sélection sont généralement formés de gens de d'autres ministères. Et parfois, par malchance, si tu as malheureusement mis un ministère dans lequel tu es dans le comité de sélection, ben ça se peut que ton CV soit vite éjecté parce que si tu as des mensonges, ben ça va être vite déclaré. Fait que c'est à la défense du gouvernement, ils sont en train de tranquillement, à la vitesse où ça peut aller, d'améliorer leur processus pour éviter ces fraudes-là. Protéger les gens contre eux-mêmes.
Ouais, exact. Donc, ben, ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait parler. Vous lirez les articles, vous passerez le mot à tout le monde, mais en gros, faut qu'on s'oriente pour que toutes ces méthodes-là soient diffusées partout. Puis en même temps, comme on disait, c'est vraiment pour améliorer la qualité puis pas se ramasser avec justement des personnes qui savent peut-être pas ce qu'ils font ou qui profitent de tous ces systèmes-là pour faire de l'argent sur le dos de tout le monde. Parce qu'au final, pourquoi que on en parle? C'est parce que c'est public. Si c'est une entreprise privée qui veut accepter des CV tout croche de tout le monde, mais c'est leur problème, tu sais. Là, c'est vraiment l'argent de tous. Je pense que c'est important qu'on gère ça comme il faut.
Bah, c'est effectivement, c'est nos impôts qui s'en vont là-dedans. Puis je suis le premier à être le défenseur de la qualité de ce qui doit être livré. Là. Tu sais, moi, ça m'agace quand on n'est pas capable de livrer un système, peu importe. Là. Fait que c'est très. Ça me sent à cœur qu'on livre la qualité, que les consultants au gouvernement livrent la qualité. Donc, si les consultants veulent livrer la qualité, il faut que tout ça soit stable, que le gouvernement vérifie correctement, mais qu'en même temps, tout le monde joue le plus honnête possible pour éviter ce genre de choses-là. Puis, tant qu'à regarder ça de cette façon-là, maintenant, ces pratiques-là étaient très présentes en moment de surabondance de ressources, donc en pénurie de travail. Le fardeau a changé, maintenant on est en pénurie de ressources, pas en surabondance de travail. En ce qui me concerne, alors ça, je serais vraiment non intéressé. J'ai aucun incitatif à mettre un faux CV puisque j'ai déjà suffisamment de travail pour être heureux.
Oui, exact.
Ça, c'est spécifique au domaine de la sécurité. Dans les autres domaines, je ne connais pas. Fait qu'on pourrait prétendre que cette pratique-là tend à diminuer puisque le fardeau a changé. Donc, c'est facile de trouver du boulot. Là, il va falloir voir qu'il faut aussi que le gouvernement prenne. Puis là, le gouvernement caquiste a nommé un ministre à la transformation de l'appareil gouvernemental pour l'ITI. J'espère que celui-ci va amener et va aider une dynamisation d'ITI au gouvernement, d'amener des idées nouvelles, permettre l'embauche de gens compétents, de gens qui sont motivés puis qui veulent aller plus loin et par ce genre de choses-là. Qui, un, va résoudre le nombre de la dépendance aux consultants. Donc, tout va résoudre ta dépendance au problème dans lequel on vit. Tu sais, dans le sens, si tu as moins de consultants, ils vont moins tricher, ça va bien aller. Fait que je suis très intéressé. J'ai très optimiste par rapport à ce qui s'en vient. Parce que quand même, l'article présente beaucoup le passé en espérant que ce qui nous vient devant nous sera...
Oui, exact, là, parce que présentement, c'est annoncé qu'il va y avoir des changements, mais on espère qu'ils vont arriver. Mais tu as raison que si le cercle fait que il y a plus d'internes, il y a plus de connaissances internes, donc moins de consultants, ben, le problème va tendre à disparaître, évidemment.
Donc, sur ça, ben, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne continuité, puisqu'on nous a la vitesse où les épisodes sortent dernièrement.
On va être rendu à 200 bientôt, Nick.
Ça va vite, merci, parce que là, on a des sujets intéressants. Puis je pense que ça va continuer. Dans notre backlog, on a beaucoup de sujets qu'on devra. Fait qu'on a des épisodes spéciaux pour l'année qui s'en viennent, qui sont
planifiés. Plusieurs spéciaux, oui.
Fait qu'on vous réserve encore des choses très, très intéressantes. Donc, sur ça, bonne fin d'épisode.
Yes.
À la prochaine fois.
Merci tout le monde.